Et nous allons passer la semaine dans l'univers du jeu vidéo avec un nom qui vous dira quelque chose, celui qui était notre mascotte, qui était devenu Monsieur Tuerie de la semaine sur la saison dernière. C'est l'ami Patrick qui va nous servir de guide, qui nous accueille en magasin, ici, magasin de games à Limoges, rue du Consulat. On va cette fois non pas parler de la grosse actu du jeu vidéo comme on l'a fait pendant de longues émissions ensemble, on va vraiment parler de ce métier chargé de cette boutique de jeux vidéo. On va voir comment ça se passe. D'abord un mot sur la boutique en elle-même, son fonctionnement, enseigne nationale, déclinée ensuite au plan local.
Oui, exactement. Donc l'enseigne Dog Game fait partie du groupe Micromania, pour ceux qui ne le savaient pas, qui regroupe une quarantaine de magasins, donc répartis sur toute la France, mais pas sur Paris par contre. Donc c'est vraiment la distinction qu'on va faire avec les autres grosses enseignes nationales, c'est que nous on est vraiment des magasins dits de proximité, sans le côté péjoratif de la province.
Exactement. On va voir un peu comment tout fonctionne. Ça veut dire qu'on est quand même un peu indépendant en quelque sorte, hein.
Oui, tout à fait. C'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on a quand même une vraie marge de manœuvre par rapport à d'autres grandes enseignes. Chaque magasin a son entité propre, avec son personnel qui lui est propre aussi, et qui va pouvoir aussi axer sa politique commercial, on va dire, comme bon lui semble.
Ça veut dire aussi qu'on est peut-être plus passionnés ici. Ceux qui travaillent dans ces enseignes-là, en général, sont des vrais passionnés de jeux vidéo.
Alors, non, je vais pas dire ça, puisque t'as d'autres magasins quand même qui font très bien leur boulot et qui ont vraiment la passion du jeu vidéo. Je dirais plus que nous, c'est la passion du client qu'on a sans faire de flagornerie. Tu me connais, tu sais que c'est pas style de la maison. Non, nous, ce qui nous intéresse vraiment dans ce magasin, c'est vraiment le client en soi. C'est la satisfaction du client, bien plus que nos chiffres.
Alors avant de reparler du magasin et de son fonctionnement, et on va voir quel est le boulot au quotidien pour le responsable de jeux vidéo, toi, ton parcours, comment on finit responsable de boutique?
Bah tu sais, à Bac-2, j'avais pas trop le choix, c'était soit ça, soit flic, donc en fait, j'ai préféré repartir dans les jeux vidéo.
Bon, rectifions, Bac+2.
Ouais, non, Bac+2, et puis une passion depuis que je suis tout gamin, hein, depuis que j'ai 8 ans, moi j'ai la manette dans les mains, j'ai été élevé aux jeux vidéo, et c'est vrai que c'est vraiment intéressant de pouvoir allier le côté passion et le côté professionnel, parce qu'il y a un truc tout bête, c'est que le matin, quand tu te lèves, bah t'y vas pas à reculons.
Alors ça veut dire qu'il y a une formation particulière, on a un cursus à privilégier?
Cursus commercial, école de commerce, avec surtout une grande partie de management, puisque bah, comme tu le vois ici, j'ai mes petits vendeurs qui sont là, hein, mes deux petits vendeurs, Alexis et Timothée, qui sont des gens pas très adorables, avec qui il faut faire avec, mais bon, on s'en sort. Et c'est pour ça que là, une formation de manager est vraiment très intéressante.
Alors, on va détailler donc le boulot quotidien qui est le tien au sein du magasin, simplement d'une manière générale. La spécificité d'une boutique comme ça, c'est quoi? C'est d'avoir, de soucier le service, entre guillemets, le service après-vente, c'est le petit plus?
C'est pas forcément le service après-vente, je dirais même c'est le contraire, c'est le service avant-vente. Nous ici, si tu veux, notre politique, elle est très simple, c'est qu'on axe tout sur la fidélisation. Je préfère aujourd'hui te vendre un jeu à 20€ plutôt qu'un jeu à 70€ si par rapport à ce que tu m'as expliqué sur toi, ce que tu aimes dans les jeux vidéo, je sais que celui-là va mieux te convenir. Évidemment qu'on est là aussi pour faire de l'argent, mais nous ce qu'on veut c'est faire de l'argent, oui, mais à long terme. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'un client revienne, qu'il soit satisfait et puis qu'en plus il arrive avec la banane, comme ça nous ça nous donne du peps et puis ça nous permet de mettre l'ambiance que tu vas pouvoir découvrir tout au long de cette semaine dans le magasin.
Oui, un client que tu escroques, tu l'escroqueras qu'une seule fois en gros, hein.
Ça dépend, parce que alors pour tous ceux qui suivent nos émissions de radio hebdomadaires, faut savoir toi quand même je t'en ai vendu de la...
J'en ai plein les tiroirs à la maison. Deuxième rendez-vous au sein de l'univers des jeux vidéo avec Patrick, qui nous sert de guide au magasin de games à Limoges, on rappelle. On va parler du boulot quotidien, après avoir fait les présentations de la boutique et de ton cas perso. Le fonctionnement, il y a quand même un mythe, et tu vas me dire, tu vas me le confirmer.
Non, alors ça y est, là je te vois venir, ça va m'agacer.
Tu vends des jeux vidéo, évidemment tu passes ton temps à jouer à ces fameux jeux.
Mais évidemment, tu sais, ça, c'est le fameux mythe du vendeur de jeux vidéo. Tu sais que même ma femme, il a fallu quand même que je rame et que je la fasse venir des journées entières avec moi pour voir que oui, évidemment, c'est qu'un mythe.
Par exemple derrière nous, on peut expliquer que c'est toi qui es en train de jouer à un jeu pendant qu'on est en train de faire l'émission, on est d'accord?
Ben non, ça s'appelle juste une démonstration d'un super titre qui va sortir et c'est des vidéos qui tournent toutes seules. Non, alors, tu sais, ça c'est vraiment le mythe du vendeur de jeux vidéo, c'est-à-dire, tu sais, le mec qui est à peine réveillé avec les yeux ouverts de 3 mm avec la manette et quand tu rentres, il te dit pas bonjour parce qu'il faut qu'il finisse son stage, qu'il aille au prochain point de sauvegarde. Non, ça n'existe pas dans un magasin de jeux vidéo, au contraire, t'as énormément de boulot et bien plus que ce que tu peux penser.
Tu joues peut-être même moins que les clients qui viennent ici et qui eux vont passer des heures avec le jeu qu'ils sont venus acheter.
Ah oui, c'est même sûr. Bah écoute, imagine-toi un vendeur de bananes qui vend des bananes toute la journée. Le soir, si jamais sa femme lui fait des bananes flambées, si tu veux, il va la regarder et je pense 2 jours après, il est parti. Et regarde, par rapport à des magasins de vêtements, je dirais, ou des petits magasins, enfin, si tu veux, moi, il n'y a pas 30 secondes qui se passent sans qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans le magasin. Donc, évidemment, ça demande énormément de présence en surface de vente, présence en caisse. Et puis, je te rappelle que derrière, il y a tout aussi le travail que personne ne voit au niveau de la réserve. C'est tout simple, mais tu sais qu'ici, on a un magasin qui rachète les jeux d'occasion. Mais le fait que tu me ramènes aujourd'hui un jeu d'occasion, c'est tout bête, mais il faut que je le range. Hein, tu vois, ça, c'est quand même le béaba. Il faut qu'il soit mis en rayon. Et puis, t'as une politique aussi au niveau des tarifs aussi qui est énorme, puisque tu as des prix qui changent tous les jours. Petit exemple, ce matin, t'avais une vingtaine de jeux qui avaient baissé. Bah, tu sais quoi, mine de rien, bah, c'est du boulot, faut aller les chercher. Alors, un jeu qui baisse, c'est le jeu neuf qui baisse, c'est le jeu d'occasion qui baisse. Donc, tout ça, ça représente quand même une grosse masse de travail qui vient complètement démonter ton attitude que je trouve très lâche de ramener sur le tapis cette histoire de vendeur de jeux vidéo qui ne fait que jouer. Tu me déçois, Seb.
Alors, ça veut dire qu'évidemment, ces prix, ils sont fixés par quelqu'un. Qui est-ce qui vous envoie la liste? Qui décide du tarif d'un jeu et qui, du jour au lendemain, peut-être va perdre 25%, 30%?
Eh ben, écoute, c'est assez simple. En fait, ça se passe un petit peu comme les véhicules d'occasion. Alors tu sais que déjà quand tu achètes un véhicule neuf, tu passes le pas du garage, t'as déjà perdu au moins 20 ou 30%. Bah écoute, on va pas se mentir, dans les jeux vidéo c'est exactement la même, d'où l'intérêt vraiment d'attaquer sur le marché de l'occasion dès qu'on peut, éviter de se jeter directement sur les grosses sorties. Si jamais on sait qu'on peut attendre 15 jours, 3 semaines, tout de suite on va payer le jeu un peu moins cher. Et sinon l'Argus est fixé au national en fait par la chaîne, qui va avoir par rapport à l'offre et la demande de certains titres, et surtout aussi par rapport aux quantités qu'il va y avoir. Donc tout ça, ça te fixe un prix d'équilibre qui est le prix de rachat, et qui va permettre après d'avoir une politique nationale qui va être la même pour tous les magasins Dog Game.
Alors ça veut dire que certains vont te dire, attends, je suis venu acheter le jeu hier à 50€, là il est à 30€, tu peux pas me prévenir? En fait vous êtes même pas au courant, ça tombe du jour au lendemain.
Exactement. Alors c'est vrai que le client qui l'a acheté la veille, quand il revient et qu'il te revend le jeu, que tu lui expliques que le jeu tu vas le racheter 12-13€, bah évidemment il est pas content, mais nous le premier, on n'était pas au courant. Et pour la petite histoire, tu sais quoi, bah, je me suis fait avoir aussi. Donc quand on dit que les cordonniers sont pas forcément les mieux chaussés, on en est l'exemple.
Preuve par l'exemple. Ça veut dire qu'on dit aussi que les jeux vidéo c'est cher, le tarif il s'explique comment?
Alors sur les coûts de fabrication, on va pas se mentir, hein, c'est ridicule. Le coût de fabrication d'un jeu, je dirais d'imprimer le CD, c'est rien du tout. Par contre les coûts de développement derrière sont juste mirobolants, hein, puisque tu prends un God of War, on parle en millions, qui était le God of War, qui était quand même un petit bijou et qui a été un des plus gros budgets du jeu vidéo qui ait jamais été fait. Tu vas avoir donc l'aspect développement qui va justifier le prix. Tu vas aussi avoir l'aspect marketing. Tu sais, les super pubs sur TF1 à 20h40, bah évidemment, ça coûte bonbon. Et puis, il y a un autre aspect aussi qui fait le prix des jeux vidéo. C'est qu'un studio, en fait, qui va développer un titre. On va prendre un Call of Duty, par exemple, qui sort tous les ans. Évidemment, ils se font énormément d'argent. Mais ils sont pas philanthropes non plus. Mais derrière, ça va leur permettre de travailler sur des projets qui vont être beaucoup plus confidentiels, tu vois, et qui ont évidemment un succès commercial beaucoup moins grand.
En même temps, on a des tarifs qui descendent de plus en plus vite sur des jeux neufs, hein, aujourd'hui.
Oui, d'où vraiment l'intérêt de te jeter sur un jeu quand il sort. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il faut savoir prendre un petit peu de recul. N'hésitez pas à nous en parler, parce que là, nous, on est là pour vous conseiller, justement.
Troisième rendez-vous au sein du jeu vidéo, l'univers du jeu vidéo que Patrick nous fait partager tout au long de cette semaine. Côté coulisses, évidemment, c'est ce qui nous intéresse, comment fonctionne une boutique de jeux vidéo. On parlait de l'occasion dans le précédent rendez-vous, ça c'est quelque chose de très important, c'est, on va dire, même la spécificité d'une boutique comme Dog Games ici à Limoges.
Oui, exactement, en fait, tout dépend évidemment du produit en soi, hein. C'est l'Argus qui fixe les prix de reprise. Il faut savoir que ce qui est vraiment intéressant, c'est que toi, ça te permet de revendre ton ancienne console, par exemple, pour en prendre une nouvelle, ou revendre ton ancien jeu pour repartir sur une nouveauté. Mais ça te permet aussi, toi, de pouvoir trouver tes jeux d'occasion quand même relativement moins chers, et surtout tes consoles aussi d'occasion beaucoup moins chères. Et c'est vrai que le système de l'occasion ici est vraiment intéressant, même si des fois, tu vois, on va avoir une petite image de boui-boui, entre guillemets, parce que tu sais, ça fait un petit peu bazar. Pour ceux qui connaissent pas le magasin, t'as des panières ou t'as pas mal de jeux. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, parce que c'est la diversité de l'offre, c'est le nombre de références que tu vas pouvoir avoir.
On peut trouver parfois une pépite qui, en nouveauté, ne sera plus rééditée, et un particulier va venir le revendre, donc l'intérêt de venir gratter, chiner, quoi, c'est de la... On fait presque de la brocante du dimanche toute la semaine.
C'est exactement ça, et c'est encore plus flagrant en fait sur des consoles où les éditeurs ne sortent plus de jeux neufs. On va prendre la PlayStation 2 qui s'est vendue à des millions d'exemplaires. Aujourd'hui, t'as plus de jeux neufs qui sortent. Alors souvent, on voit des gens qui rentrent, ils vont direct, dans les recoins du magasin pour aller chercher, comme tu le dis, la petite pépite qui en plus reste à des prix abordables, parce que un jeu PS2, tu vas pas le vendre 40€ non plus. Donc ouais, voilà, ça c'est vraiment hyper intéressant.
La part entre le neuf et l'occasion, par exemple, ça représente quoi sur des jeux?
Oh, sur des jeux, écoute, moi chez moi en tout cas, c'est du 60-40 quand même, 40% pour le neuf, puisque évidemment quand tu as des grosses sorties, tu vois, il y a plein mal de gamers qui ont du mal à attendre. Et tu sais que toi et moi, on en fait partie, en plus c'est ça le plus drôle. Et je pense qu'aujourd'hui, les temps sont un peu durs, les budgets de haut niveau des loisirs ont quand même été pas mal réduits. Donc aujourd'hui, ouais, l'occasion c'est un bon palliatif à tout ça.
Mais donc il y a les éditeurs aussi, ce que je me dis en même temps, au lieu de vendre 3 jeux neufs, ils vont vendre un, et puis les autres vont attendre pour les ventes d'occasion, qui ne leur apportera rien évidemment, parce que là tout va dans la poche du magasin qui fait la revente d'occasion. Ils s'attirent pas un peu la gueule au niveau des éditeurs?
Ah mais écoute, je vais reprendre ton expression, ah si, ça tire même carrément la gueule, et on le voit parce que tu as des politiques mises en place justement par ces mêmes éditeurs qui sont anti-occasion. Je vais donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, un FIFA 11 qui est sorti donc l'année dernière, et ça sera le cas aussi sur le prochain FIFA 12. Donc déjà, on le dit à tous les gamers, méfiez-vous. Tu as un pass pour jouer en ligne. C'est-à-dire que si jamais tu achètes ton jeu d'occasion et que la personne qui l'avait avant a utilisé ce code, tu ne pourras pas jouer en ligne à moins de payer 10$, ce qui se traduit en euros par 10€. Tu te rappelles, ça a été un de mes grands coups de gueule l'année dernière quand on s'est rendu compte de ça. Donc ceux qui sont les principaux acteurs de cette politique, c'est surtout Electronic Arts, EA, qui est un des plus gros éditeurs, et c'est vrai qu'eux, et pensons à eux, ils ont quand même vraiment besoin d'argent. Mais tu vois, cette politique-là, moi je suis vraiment contre et je m'y oppose. Alors évidemment que je peux comprendre que bah ils touchent pas un rond et que ça les embête. Par contre, ils ont fait exactement la même chose avec le jeu PC, où chaque jeu PC maintenant est protégé par un code. Tu prends les Sims 3, si tu l'achètes, eh ben, tu ne peux pas le revendre pour une raison toute simple, c'est que le code est à usage unique et que derrière, si quelqu'un l'achète, il ne pourra pas y jouer. Et tu sais ce qu'ils ont réussi à faire avec cette politique-là ? C'est juste de tuer le jeu PC.
On sent un peu la nostalgie aussi, justement, la différence entre le jeu console, le jeu PC, pour toi, qui a commencé il y a quelques années maintenant en arrière. Il y a un peu de nostalgie avec ses premiers PC, ses premiers jeux sur PC ou ses premières consoles.
Là, tu sais que moi, mon premier PC, c'est un Amstrad CPC 464, tu sais, avec le crocodile, je sais pas si tu te rappelles de la publicité.
Ah, j'étais pas né.
Ouais, c'est ça, ouais. Non, et tu sais, on mettait des cassettes, comme des cassettes audio à l'époque, ça mettait 5 ou 6 heures à charger. Ouais, c'était génial. Puis t'as pas la même relation avec un PC qu'avec une console, parce que ton PC il est vivant, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Ton PC, des fois il est malade, des fois il plante, des fois faut le cajoler un peu, des fois tu te fâches, tu lui mets une petite claque sur l'unité centrale, mais ça reste toujours amical entre toi et lui. Bah, aujourd'hui, non, avec ta console tu fais pas ça, parce que sinon tu risques de la foutre en l'air, en plus de faire sauter ta garantie, donc ça t'oublie.
Notre quatrième et avant-dernier rendez-vous dans l'univers du jeu vidéo avec Patrick, nous sommes toujours au sein de la boutique de Games, rue du Consulat à Limoges. On entend toujours la démo hein, qui ne s'arrête jamais hein. Dans notre dos, ça cartonne plutôt pas mal.
Ah oui, ça cartonne plutôt pas mal.
On se lasse pas.
Non mais tu vois, mine de rien, tu parlais, hein, tu voulais découvrir un petit peu mon univers, mais tu vois, c'est vrai que c'est aussi pouvoir rester de 10h à 19h dans un univers qui est quand même assez bruyant, parce qu'évidemment, t'imagines, tu rentres dans un magasin de jeux vidéo, il y a aucune ambiance. Est-ce que tu vas m'acheter un jeu ? Non, tu vas quand même te dire qu'ici, ils sont un petit peu tranquilles.
Moi, j'avais envie de parler du client. Tu me parlais de cette fameuse technique en me disant « Je préfère vendre un jeu à 20€ qu'un jeu à 70€. » J'ai quand même un petit peu de mal à y croire.
Non, mais je te, enfin vraiment, en fait. Moi, si tu veux, ça fait bientôt 6 ans que je suis responsable de ce magasin-là. Et avant d'être dans ce magasin-là, si tu veux, j'étais moi-même client de magasin de jeux vidéo. Et tu sais, je me suis fait avoir pas mal de fois parce que tu tombes aussi sur un vendeur qui va faire très bien son boulot et qui va t'en mettre, excuse-moi l'expression, mais plein le panier.
Il sera un vendeur plus qu'un conseiller.
Exactement. Moi, quand je suis arrivé dans ce magasin-là, c'était hors de question qu'on pratique cette politique-là. Moi, aujourd'hui, mon but, c'est que tu reviennes. Tu sais qu'un client, par an, il achète en moyenne 6 ou 7 jeux. Alors je vais être très malin en te vendant un jeu à 70€ qui va pas te plaire. Les 5 ou 6 autres, tu vas pas les acheter chez moi. Alors quand en vendant 6 ou 7 à 20€, regarde à la fin qui est-ce qui a raison.
Il y a aussi autre chose, c'est qu'on peut venir en tant que client, je vais venir t'acheter les consoles, elles sont toutes là, les grandes marques, mais si je viens t'acheter la console, je peux aussi très bien après rester à la maison et puis aller sur internet, et on sait qu'aujourd'hui les jeux, ils sont un peu à disposition gratuitement, c'est le fameux piratage, ça c'est vraiment un gros problème, toi qui es là depuis 6 ans. T'as vraiment vu la chose se développer?
Ouais, j'ai vraiment vu la chose se développer, notamment avec la Nintendo DS, la première, tu sais, avec la fameuse R4. Alors, écoute, on va tout de suite revenir sur un petit point légal. Évidemment, le piratage, eh ben, c'est pas autorisé. Évidemment, c'est pas légal. La R4 ne doit pas être vendue en France. Vous allez pouvoir la trouver que sur Internet. Bon, ok, tu vois, je peux te faire tout plein de blabla autour. Ok, maintenant, on va parler plus, je dirais, les yeux dans les yeux. Mais évidemment que déjà, si les éditeurs y baissaient un petit peu le prix des jeux, tu vois, t'aurais moins envie de pirater.
En même temps, le piratage, c'est une autre relation. Quelqu'un qui va pirater 100 jeux dans le mois sur Internet, sur la DS, c'est pas le même amoureux du jeu vidéo. On consomme le jeu vidéo finalement, on n'y est pas attaché, on fait pas une sélection du jeu qui nous intéresse vraiment, on télécharge tout à la va-vite.
C'est exactement ça. Le pire, c'est que du coup, tu prends plus plaisir parce que quand t'as les jeux à foison comme ça, tu vas plus t'attarder sur la petite pépite. Tu sais, il y a même des jeux qui sont extraordinaires, mais qui, pendant les deux premières heures, sont un petit peu mou du genou, et ben là tu sais ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer à autre chose. Voilà, t'as pas la même relation, mais je vais te dire franchement, c'est exactement le même problème avec la musique. Rappelle-toi quand tu vas acheter ton petit CD, que t'as le format CD, enfin tu vois, c'est quand même autre chose que de l'avoir, même en téléchargement légal, sur ton ordinateur. T'as pas ce support physique, et oui, évidemment, tu perds un petit peu du charme du produit.
Ça veut dire aussi ce piratage, il y a des conséquences, on sait vers quoi on va.
Alors on va se mettre d'accord tout de suite, le piratage aujourd'hui il est favorisé entre guillemets par les constructeurs de consoles. Je vais te donner un exemple tout simple, hein. Tu prends Nintendo. Nintendo, la DS, si tu veux jouer en ligne, elle est obligée de se connecter à Internet. Sur PlayStation 3, qu'est-ce qu'ils font quand tu te connectes sur Internet? Toutes les semaines, tous les 15 jours, t'as une mise à jour. Hein. Donc du coup, derrière, ton piratage, il peut pas marcher. Ou alors, dans ce cas-là, si tu veux pirater, tu ne joues plus en ligne. Ce qui fait que tu perds 60-70% aujourd'hui de l'intérêt du jeu vidéo. T'en as qui sont super malins, comme ça aussi c'est Microsoft. Hein. Ils ont laissé la première Xbox à l'époque se faire flasher, se faire pucer. Et tu sais quoi ? Moi aussi j'avais pucé la mienne.
Ouh !
Mais oui, mais sauf que t'avais le jeu en ligne qui n'était pas développé du tout, donc c'était vraiment pas embêtant. Ils ont rien dit sur la 360, elle est sortie. Écoute, 2 mois après, ça y est, tu voyais déjà des enseignes qui pouvaient les flasher, qui pouvaient les pirater, patati patata. Jusqu'au jour où Call of Duty Modern Warfare 2 est sorti, où là, tu sais ce qui s'est passé ? C'est que tous les mecs qui sont inscrits en ligne, ils se sont fait bannir leur compte. Bannir son compte, ça veut dire que ta console n'ira plus jamais jouer en ligne avec le reste du monde, qu'elle sera invendable en magasin. Tu vois, les solutions pour le piratage, s'ils veulent, ils les ont. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant pour Nintendo de dire non au piratage ? Je te laisse réfléchir là-dessus.
Et c'est déjà avec un peu de nostalgie que nous allons refermer cette semaine dans l'univers du jeu vidéo avec Patrick, hein, qui nous a permis d'entrer dans les coulisses de ce magasin de games ici à Limoges, mieux comprendre le fonctionnement de ce magasin de jeux vidéo. C'est une clientèle de passionnés. Moi, j'ai l'image ici des petits jeunes de 12-13 ans qui vont venir.
Et tu vois, là, tu vas repartir avec tes clichés de vendeurs de jeux vidéo, de magasins de jeux vidéo. Eh ben oui, ma clientèle, c'est que des puceaux prépubères. Et moi, je passe ma journée à jouer. Mais non, ça se passe pas du tout comme ça.
La preuve dans le magasin, de toute façon, en ce moment.
La preuve dans le magasin. En ce moment, t'as vraiment tout type de clients. Évidemment que tu vas avoir des enfants de 5, 6, 7 ans, tu sais, qui commencent avec leur première console, avec leurs petits doigts à toucher la manette. Mais tu vas aussi avoir des personnes plus âgées, notamment, tu sais, avec la révolution que Nintendo a créée avec la DS et la Wii, où t'as pu mettre tes grands-parents, notamment sur la console, avec le programme d'entraînement cérébral, par exemple. Non, aujourd'hui, la clientèle jeux vidéo est hyper hétéroclite. Et tu sais, c'est ça aussi qui est vraiment intéressant, parce que moi, je me retrouve des fois à conseiller des jeux à des grands-mères. Mais qui viennent, elles, acheter pour leurs petits-enfants. Et elles me disent, excusez-moi, mais moi, je suis perdu. Bon, évidemment, la petite blague, c'est, oh, vous savez, moi ici, je suis que de passage. Et ben voilà, tout de suite, tu crées un contact. Et comme on a essayé de le faire comprendre tout au long de cette semaine, c'est ça qui nous intéresse ici. C'est le contact avec le client, plus que, je dirais, l'aspect business classique.
Et c'est aussi, par exemple, tu disais, les parents qui viennent avec les enfants, c'est le conseil, le parent qui veut savoir qu'est-ce que je peux donner à mon enfant, qu'est-ce qui est dans sa catégorie d'âge. Là aussi, c'est ton côté pédagogique.
Oui, puis c'est surtout que tu sais, sur tous les jeux, t'as la norme PEGI, tu sais,
le fameux
petit chiffre qui te permet de savoir à partir de quel âge tu peux jouer. Ce qui ne veut absolument rien dire, hein, on le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est que ce petit chiffre ne veut pas dire que c'est pour un enfant de 3 ans, c'est juste que ça ne va pas heurter la sensibilité d'un enfant de 3 ans, et notamment sur les jeux de ce type-là où il faut savoir lire, si tu veux, quand ils te mettent un 3, ça induit vraiment en erreur beaucoup de parents. Et oui, évidemment, là aussi, c'est notre boulot de ne pas conseiller à un GTA, déconseiller au moins de 18 ans, à un gamin qui a 13-14 ans, tu vois, même si on ne doit pas refuser de le vendre, mais c'est à nous aussi d'éduquer l'enfant. Et des fois aussi les parents.
Pour faire de bons gamers à l'avenir. Et justement, l'avenir, pour toi, c'est quoi ? Déjà 6 ans ici dans la boutique, toujours passionné. Comment tu vois les prochaines années ?
Écoute, les prochaines années, je les vois évidemment à un moment ou à un autre à prendre mon envol de ce magasin. Mais dans tous les cas, c'est clair, ça sera fait avec regret et avec une belle petite larme à l'œil. Parce que, ouais, on a partagé des belles choses ici, notamment avec mon équipe que je m'amuse à chambrer, mais qui sont vraiment adorables. Et avec mes anciens collègues aussi, tu sais, qui sont partis vers d'autres horizons. Donc, oui, un jour ou l'autre, je partirai, mais bon, pour l'instant, je suis encore là.